Bonjour à toi, Warrior, qui nous écoute depuis peu ou depuis toujours. Yes Podcast a besoin de toi pour continuer d'exister. Et oui, on en a parlé dans l'épisode 52, depuis 2 ans, l'existence de ce podcast repose sur le travail gratuit des femmes, en l'occurrence nous. Vous êtes plus de 10 000 auditeuristes à nous écouter chaque mois. Si vous mettez tous 1 euro, ça peut nous changer la vie. Et si tu ne peux vraiment pas, n'hésite pas à partager notre appel ou à nous mettre une pluie d'étoiles sur ta plateforme de podcast préférée. Le lien de la cagnotte est en description et sur notre Insta. Elle s'appelle De la force pour les warriors. Dans tous les cas, merci à toi et gros love.
Yes!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Podcast Factory.
Bonjour à vous, nous revoilà pour un nouvel épisode de Yes, le podcast de Warrior. Deux fois par mois, on célèbre les victoires de meufs contre le sexisme et ça nous fait un bien fou. Je suis Anaïs et comme toujours, je suis en compagnie de mon gang d'ultra-féministes bien-pensantes. Salut Elsa.
Hello.
Salut Marga.
Bim bam boum.
C'est le 18e épisode, ça y est, les filles, on est majeures. On a le droit de conduire, on a le droit de boire de l'alcool, enfin on sort enfin de l'illégalité plutôt.
Tout va bien.
Il était temps. Et donc pour ce 18e épisode, on va parler des warriors dans la santé. Qu'on soit soigné ou soignante, on a toutes eu des gros moments de malaise lors de consultations ou de soins.
Oh oui.
Ce sont des moments qui peuvent être délicats et on espère donc de la bienveillance mutuelle, ce qui évidemment est loin d'être évident. De fait, c'est un thème délicat et très vaste, mais nos warriors vont vous donner de la force et vous remonter le moral. Elles sont ambulancières, infirmières, kinés ou patientes. Elles ont recadré la misogynie, bousculé le système, confronté la hiérarchie. Bref, elles ont pris des risques et elles se bastonnent pour elles, mais aussi pour toutes les autres. Alors pour commencer, Marga, tu voudrais d'abord revenir sur l'épisode LGBTQI+, pour compléter un petit peu le propos, il me semble.
Et oui, parce qu'on a été contacté par l'association ARDIS, donc c'est une association de soutien aux personnes étrangères LGBTQI+, suite au témoignage de Chiara et Marwa, donc on avait diffusé dans l'épisode. Alors pour rappel, elles nous avaient confié leur galère de couple italo-tunisien vivant en France, et elles nous avaient raconté qu'elles n'avaient pas pu se marier à cause d'un accord diplomatique entre la France et 11 pays issus de l'ex-Yougoslavie et d'anciennes colonies. Donc cet accord interdit aux ressortissantes de ces pays, ou aux ressortissants d'ailleurs, de se marier avec une personne du même sexe en France, contrairement donc au vote de la loi pour le mariage pour tous. Donc Chiara et Marwa ont dû aller fêter leur amour en Italie, voilà, et ça a été un combat pour elles, parce que voilà, elles n'ont pas pu se marier en France. Et ben en fait, l'ARDIS nous a écrit pour quelques précisions là-dessus, parce qu'en fait ce n'est pas normal, elles auraient dû pouvoir se marier en France. Alors, explication. En 2016, et grâce à la lutte de plusieurs associations et de personnes concernées, ces accords dont je parlais tout à l'heure, qui sont injustes, ont été en fait dénoncés par le ministère de la Justice, qui a instruit une dépêche aux parquets généraux en leur demandant de ne plus s'opposer à ces mariages, peu importe la nationalité des personnes. Et cela a été possible donc après une décision de la Cour de cassation en 2015, qui avait été saisie par un couple franco-marocain.
Okay.
Donc à tous les couples concernés, faut bien le préciser, en fait, vous avez le droit de vous marier en France.
Yes.
Et si vous êtes dans cette situation et que l'officier d'état civil vous refuse votre droit au mariage, vous pouvez leur rappeler fermement que c'est une discrimination. Donc ce que l'ARDIS conseille de faire, c'est de vous déplacer en mairie avec les textes officiels sous le bras. On vous les mettra en lien en description de l'épisode. Vous pouvez aussi contacter l'association, donc couple-accueil@ardis.org, pour qu'ils vous conseillent.
ARDHIS.
Voilà, exactement. Alors ils disent que ça arrive assez fréquemment en fait ce non-accès à ce droit parce que beaucoup, beaucoup d'officiers d'état civil ne méconnaissent en fait méconnaissent la loi
et ou s'y opposent
ou voilà tout simplement disent non c'est pas possible puisque c'est marqué dans les accords diplomatiques alors que non on peut se marier donc merci beaucoup à Aude et à Julien de l'Ardis d'avoir pris le temps de nous écrire pour nous permettre de préciser tout ça et voilà et faites passer le mot parce que apparemment beaucoup de personnes ne sont pas au courant et dont
nous les premières
voilà.
Merci beaucoup. Et du coup, sans plus attendre, Elsa, tu vas nous présenter notre première warrior.
Yes. Alors, on va parler de Andrea. On va écouter son témoignage. Donc, Andrea travaille comme infirmière à domicile à la campagne dans la Drôme depuis 2 ans en libéral après avoir travaillé 4 ans en structure. Et en fait, elle a remarqué des différences dans sa relation aux patients depuis qu'elle se déplace à leur domicile. Et notamment dans le comportement des hommes qui se permettent des remarques sexistes.
C'était un matin où j'allais voir un patient, un monsieur d'un certain âge. Donc je lui fais les soins comme d'habitude. Et il venait de se réveiller et il commence à me faire des réflexions par rapport au fait qu'il avait rêvé de moi, que j'étais jeune, jolie. Ouais, il avait eu des mauvaises pensées, que j'étais très désirable. Ça m'a incroyablement choquée de bon matin d'avoir ce genre de propos. Et j'ai pas, sur le moment, j'ai pas trop su comment faire face. Je me suis fermée. Et voilà, moi j'ai fini mon soin, je suis partie et ça m'est resté un petit peu toute la journée. Enfin, voilà, on n'en a plus reparlé avec ce patient. Voilà, sauf que quelques temps plus tard, il m'a refait une réflexion alors que j'étais penchée en face de lui, devant lui. Il m'a dit « Oh, mais j'ai une belle vue d'ici ». Et alors là, je me suis dit « Non, c'est pas possible, je peux pas laisser de nouveau passer ça parce que ça me met trop mal et non, c'est juste, c'est pas correct. Au bout d'un moment, il faut lui dire, il a beau avoir 97 ans, être malade et tout ça, donc je suis restée très calme et je lui ai dit, monsieur, je refuse que vous me parliez comme ça, c'est pas possible. Moi, je suis infirmière, je suis là pour vous donner des soins, on est dans un cadre professionnel et je ne tolérerai pas que vous me parliez comme ça. Voilà, donc après, je suis partie. Et quand je suis revenue un peu plus tard dans la journée pour la suite des soins, il s'est quand même souvenu de ce qu'il avait dit cette fois et bon, il s'est excusé pour ce monsieur. Maintenant, ça arrive qu'il me refasse des réflexions du type « mademoiselle ». Je lui dis toujours très gentiment « non, mademoiselle, ça n'existe plus ». On dit « madame, maintenant, s'il vous plaît ». Et voilà, en tout cas, je vais plus à la boule au ventre chez lui en me disant « qu'est-ce qui pourra me sortir cette fois-ci » ou quoi. Je sais que voilà, je répondrai toujours, je réagirai toujours. Et ça, pour moi, c'est vraiment le plus important.
Bravo, Andrea. Trop forte.
Trop forte d'avoir trouvé les mots, en plus, les mots justes dans cette situation qui n'est pas forcément évidente, quoi.
Carrément. Surtout dans le cadre du travail, en fait, c'est souvent très dur de répondre. On en a déjà parlé dans notre épisode sur le travail, beaucoup. Mais parce que, tout simplement, on a peur des conséquences. Du coup, on prend sur soi et au final, ça peut devenir vraiment très lourd. Et comme elle dit, on en arrive à avoir la boule au ventre quand on va travailler. Et c'est vraiment pas possible.
Et comme quoi, même un homme en situation d'ultra faiblesse est quand même capable encore d'imposer sa domination. C'est quand même fou.
Toujours, ils sont toujours là.
Jusqu'au bout, quoi.
En feignant un petit peu. Je suis malade.
C'est pas ma faute.
Mais après, voilà, c'est bien de noter aussi qu'il s'est excusé et que du coup, des fois, quand on fait remarquer aux gens qu'ils ont abusé, ils peuvent être capables de le reconnaître. Donc vraiment, bravo. Comme quoi, nommer le problème et dire qu'on n'accepte pas, que c'est pas acceptable dans ce cadre, enfin, dans aucun cadre, mais d'autant plus dans le cadre professionnel. C'est une très très bonne réaction. Donc vraiment bravo Andrea et merci pour ton témoignage.
Je note le moi c'est madame qui marche toujours aussi bien.
Ça m'a fait penser à Alix aussi.
C'est ça.
Dans l'épisode sur le harcèlement
dans l'espace public, tout premier épisode. Super punchline. C'est à mon tour de vous présenter une warrior et cette fois c'est Colline. Colline, elle est kiné libérale et elle bosse dans un cabinet spécialisé. Elle nous raconte sa conversation avec un patient.
Un lundi matin, on était deux kinés, deux patients. Je discutais avec mon collègue du fait que la veille, j'avais remis à leur place deux patients qui faisaient des commentaires carrément inappropriés sur une patiente qui était présente. Et je trouvais d'autant plus inapproprié qu'elle entendait très bien ce qu'ils disaient et que c'était pour moi hors de question d'avoir ce genre de remarques dans le cabinet. Et donc les deux patients qui étaient avec nous écoutaient la conversation, disaient trop rien, mais avaient l'air plutôt d'accord. Jusqu'à ce que le patient dont je m'occupais, donc un homme d'à peu près 45 ans, je pense, me dise dans le plus grand des calmes « Oui, mais les belles femmes qui se mettent en valeur aussi, elles cherchent. » Donc là, je me suis dit « Bon, on va pas s'énerver, c'est lundi, 8h, je vais lui donner une seconde chance. » Donc je lui demande ce qu'il voulait dire. Et il me répond, histoire d'être sûr, bah elles aiment ça quoi, hein. Moi quand je fais des chantiers dans des maisons et que la femme du proprio se balade en maillot de bain au bord de sa piscine, qu'on vienne pas me dire qu'elle a pas envie de se faire tous les gars du chantier. Donc bon voilà, lundi matin 8h, commencer la semaine comme ça, j'étais pas prête. Donc j'ai commencé par lui répondre qu'il y avait rien qui allait dans sa phrase, qu'aucune femme ne cherchait à se faire agresser sexuellement, que ce soit verbalement ou physiquement, que s'il était frustré, c'était pas la faute des femmes qui se promènent en robe dans la rue ou en maillot de bain chez elles, ou l'inverse, hein, si elles ont envie, pourquoi pas. Et puis j'ai fini par lui dire que la séance était terminée pour aujourd'hui. Il est parti sans rien répondre, penaud, sans avoir fait la suite de sa séance du coup. Et il a jamais repris rendez-vous, ce qui est une perte énorme dont j'ai fait le deuil très très rapidement.
Ciao, au revoir, à jamais.
Elle a perdu son patient préféré là.
Tu m'étonnes, waouh.
Bah, ce témoignage illustre très bien l'omniprésence de la culture du viol. On a déjà parlé de culture de viol, mais je pense qu'on n'en parlera jamais trop.
Allez, on en reparle, c'est parti.
Voilà, c'est le fait de déculpabiliser l'agresseur et de culpabiliser la victime. Et aussi, au passage, du coup, de minimiser les agressions. Donc, quand on culpabilise la victime, on la rend responsable de l'agression. Et un des arguments qui revient le plus souvent, c'est la tenue de la victime.
Ah bah ouais.
On appelle ça aussi du slut-shaming. Donc, en gros, selon ces gens, on est des salopes. Donc, on n'a pas à se plaindre s'il nous arrive une bricole. Voire même, on risque d'adorer ça, puisque finalement, c'est ça qu'on cherche, en fait.
Même si on ne savait pas vraiment qu'on avait envie.
Tu vois, il y a un chantier, elle veut tous se les taper, sans exception. C'est très exhaustif.
Oui,
n'importe quel homme qui passe, elle le veut. Donc c'est précisément ce que le patient de Colline affirme. Et même quand on est chez nous, puisqu'on est elle est chez elle, cette dame, elle est encore fliquée et jugée sur sa façon de s'habiller. Donc en considérant évidemment que notre façon de nous saper, elle est forcément destinée aux hommes, hein, quels qu'ils soient, c'est bien connu. On ne vit que pour flatter les rétines de ces messieurs dans l'espoir qu'ils nous tronchent poliment tous, tout le temps. Donc pour prendre la mesure de la gravité de ce raisonnement, je vous donne juste trois chiffres tout simples mais qui foutent la gerbe. Pour 27% des Français et Françaises, la responsabilité de l'agresseur est atténuée si la victime portait une tenue sexy.
Ben ouais.
C'est-à-dire que du coup, la jupe est responsable de l'agression, le soutif apparent est responsable de l'agression, etc.
C'est pas moi, c'est la mini-jupe.
Voilà. Pour 25% des Français et Françaises, ils considèrent que si on respecte certaines précautions, on n'a aucun risque d'être violé. Hein, on est juste une grande bande d'imprudentes, en fait, hein, c'est tout. Et je vais conclure avec ce chiffre qui calme, donc, puisqu'on s'imagine toujours en 2019 en France qu'un violeur, c'est l'inconnu croisé dans la rue la nuit, alors que 80% des viols sont commis par quelqu'un qui fait partie de l'entourage proche de la victime, donc famille et amis principalement, conjoint également,
et
collègues. Et quand les victimes sont mineures, ça monte à 94%. Hein.
Voilà.
Donc le problème, c'est ni la tenue ni l'attitude, le problème, c'est encore moins les victimes, mais bien les agresseurs, et uniquement les agresseurs, qui, rappelons-le, ont un seul point commun avéré, le fait d'être des hommes. Je vous mets dans la description un lien du super média féministe Simonet, qui détricote le sujet de façon beaucoup plus exhaustive. C'est à lire et à partager à souhait. Et Margaïde, c'est à toi de nous présenter notre prochaine warrior.
Ouais, et attention, je vais vous mettre un énorme warning.
Ouais.
Parce qu'il y a un message d'espoir à l'intérieur de ce témoignage prochaine warrior.
On n'a pas l'habitude.
Tout n'est pas perdu. Les hommes peuvent nous aider dans notre combat contre le sexisme au quotidien.
Prouve-le, je ne te crois pas. Prouve-le.
Alors, l'ambulancière en carton, c'est le pseudo de notre prochaine warrior. Elle est ambulancière, comme son pseudo l'indique. C'est un métier très masculin et aussi assez peu connu. Donc, je suis contente qu'on en parle dans l'émission. Alors, je l'ai invitée à nous raconter ses victoires après l'avoir entendue dans un podcast qui est vraiment très intéressant, qui s'appelle « Demande-t-on aux carottes ?» et qui traite, entre autres, des rapports de pouvoir dans le milieu de la santé, donc entre les soignés et les soignants. Et aussi entre entre soignants d'ailleurs. voilà, donc pour l'ambulancière en carton, donc le sexisme au quotidien, c'est le quotidien. Les pseudo-blagues du type femme au volant, danger ou mort au tournant, eh ben, elle l'entend quasiment tous les jours. Alors que conduire, évidemment, forcément, ça fait partie de ses compétences, puisque c'est son travail. Mais voilà, on ne peut pas répondre tout le temps, parce que c'est fatigant. Et on ne peut pas non plus expliquer tout le temps à ses collègues pourquoi c'est fatigant. Et pourtant, elle l'a fait, elle explique tout le temps, voilà, notamment un de ses binômes, avec qui elle travaille régulièrement, pourquoi ce genre de remarque la met hors d'elle et lui gâche ses journées. Alors, je vous laisse quand même écouter un petit peu comment ça s'est passé justement avec ce collègue.
J'avais déjà essayé de lui parler de ses gestes et ses remarques que je remarque au quotidien, et il m'avait répondu comme quelqu'un de pas concerné, en levant les yeux au ciel, « Oh, t'exagères !» Oh, c'est bienveillant, mais c'est gentil à la base, et ci et ça. Donc, je m'intéressais plus vraiment à ça. C'était plus mon objectif du moment. Moi, juste, on était en binôme et puis on faisait notre boulot, quoi. Et donc, un jour passe, deux jours, trois jours, six jours. On tournait beaucoup à la suite ensemble. Et il a commencé, en fait, à remarquer tous ces petits trucs du quotidien. Donc, à remarquer les gens qui veulent me faire des signes pour m'aider à reculer l'ambulance alors que j'ai pas besoin, j'ai pas demandé d'aide. Et il a commencé à me faire des petites réflexions. Mais pourquoi ils te disent ça? Est-ce que c'est parce que t'es une femme? Et je me rappelle qu'une fois, on est allé chez un de nos kinés, et dans ce cabinet de kiné, il y a trois petites marches pour accéder à la salle de travail. Et on est allé chercher un patient en fauteuil roulant et on devait monter ces trois petites marches. Donc, comme d'habitude, mon équipier se met à la tête. Moi, je me mets au pied. Je commence à me pencher pour porter le fauteuil comme d'hab. C'est mon boulot. Je fais ça tous les jours. Un gars est littéralement descendu de son vélo, un gars que je ne connaissais pas. Il s'est avancé vers nous et il m'a poussé d'un coup de coude en disant « T'inquiète ma petite, je vais m'en occuper ». Et ben, moi, j'étais sidérée parce que ce gars, je ne le connaissais pas. Il m'avait donné un surnom, il m'avait tutoyé et il y avait eu contact physique. Il m'a poussé d'un coup de coude et j'ai pas trouvé quoi répondre. Et je suis restée bloquée. Et ce qui m'a encore plus bloquée, c'est la réaction de mon équipier qui a posé le fauteuil au sol, qui a mis les freins sur le fauteuil, qui s'est avancé vers lui et lui a dit « Mais est-ce que vous doutez de ses capacités physiques parce que c'est une femme ?» Et là, il y a eu un gros blanc dans la salle du kiné. Je pense que tout le monde attendait la réponse de ce gars qui s'est mis à bafouiller parce qu'il s'est rendu compte à quel point ça pouvait être insultant. Et moi, j'étais encore plus sidérée parce que je me suis rendu compte que, ben, au final, la pédagogie dont j'avais essayé de faire preuve avec mes collègues, même si elle n'avait pas fonctionné sur le moment, elle a fini par fonctionner à long terme. Et ça a été ça ma plus grande victoire, ça a été de l'éduquer. Et au final, aujourd'hui, quand on roule ensemble, si je ne réponds pas à cette remarque, c'est lui qui y répond.
Bravo !
Ah, ça, c'est une belle victoire.
J'adore.
Et oui, surtout que les hommes nous demandent souvent, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour aider la cause féministe ? Ouais.
Eh ben, prends cette violence à ta charge et perds le temps que moi j'ai déjà perdu 2000 fois en fait.
Voilà, donc c'est tout simple en fait, c'est un très bel exemple. Écoutez, bon, des fois le message monte pas au cerveau tout de suite, hein, on l'a vu, mais ensuite écouter vraiment, puis réfléchir, puis en fait tout simplement
éventuellement
agir.
se renseigner
si besoin, hein, si les explications de la collègue ou de la copine ne suffit pas, et ensuite voilà, apprendre à détecter ces situations sexistes, ouais. à les repérer,
c'est ça.
À dire ah tiens, mais c'est pas sexiste, ouais. Ça voilà déjà, ouais. Et puis finalement à réagir quand la collègue ou la copine a pas la force de réagir,
bah ouais.
Ou prendre sa défense si besoin, et aussi même pas besoin d'être avec une femme, si vous êtes que entre mecs et que un collègue à vous a une, ouais, réflexion sexiste, faites-lui remarquer que cette réflexion,
ouais,
est sexiste.
Ah oui, il faut, voilà, pas le faire pour avoir la validation des femmes, il faut le faire de façon sincère, quoi, juste parce qu'il y a discrimination en fait.
Voilà, bah ouais, c'est ça exactement. Et c'est ce que, enfin justement, c'est ce que je voulais dire aussi, quoi, le faites pas pour avoir une récompense et pour dire regardez, j'ai bon, hein, je suis un bon allié féministe, hein,
je peux avoir un cookie.
Voilà, parce qu'en fait les sucres, c'est pour les bons chiens, hein, c'est pas pour les alliés du féminisme.
Ouais, et puis aussi, bah déjà, ça nous soulage, et en plus, malheureusement, pour plein de mecs très machos, ça va avoir beaucoup plus d'impact quand ça, oui, vient de la bouche d'un homme. que quand
c'est
ça,
malheureux,
parce
mais
que
c'est comme ça.
Nous on est perçus comme hystériques, machin. Alors surtout s'ils savent qu'on est féministe, là c'est foutu.
On perd tout crédit.
Mais tu prends ça beaucoup trop à cœur.
Voilà, c'est ça. T'es pas objective. Alors ouais. Que si c'est un mec qui leur dit, écoute, ça n'a aucun sens ce que t'es en train de dire. Bah là peut-être que voilà. En tout cas, ils vont pas du tout le recevoir de la même façon. Donc voilà, ça c'est super important.
Bravo à l'ambulancière en carton
pour, ouais, c'est clair.
Pour son intervention béton
trop
armé. Elsa, tu nous présentes notre prochaine warrior ?
Oui, alors maintenant on va parler de santé mentale, donc un sujet très très important et qui concerne tout particulièrement les femmes. Donc Léa est une énorme warrior, elle nous parle d'un sujet très tabou. Donc c'est la façon dont sont traitées les personnes qui souffrent de troubles mentaux et qui sont mises entre les mains de professionnels qui sont parfois tout puissants et qui ont l'ordonnance facile. Je dis pas que les médicaments peuvent jamais aider personne, mais c'est vrai que moi je suis souvent choquée de voir la facilité avec laquelle certains psys peuvent proposer des médicaments, des anxiolytiques ou autres à des personnes qui se sentent pas bien. J'ai déjà entendu des histoires même de gens où c'est carrément le psy du travail qui le propose sur le lieu de travail, qui a carrément un cachet sur place prêt à donner un antidépresseur à une personne qui n'en a jamais pris de sa vie et qui dit juste je suis en souffrance au travail, quoi.
D'accord.
Donc voilà, faut savoir que l'Organisation mondiale de la santé fait état de cette situation et a sorti un rapport qui dit que le genre féminin est un facteur qui va fortement contribuer à la prescription de psychotropes. Les docteurs diagnostiquent plus souvent les femmes que les hommes comme souffrant de dépression, même lorsqu'ils présentent des symptômes identiques.
Oui, c'est parce que les femmes sont vues comme faibles aussi, alors que les hommes sont
tout à fait. Exactement. Et d'ailleurs, ce qui est un problème pour les hommes aussi, parce que du coup,
il y a beaucoup plus de mal à accéder aux soins.
C'est ça, il y a beaucoup plus d'hommes qui se suicident, etc. etc. Donc voilà, donc c'est des problématiques qui sont très délicates et très, très sensibles, très, très complexes. Mais en tout cas, voilà, son témoignage est très intéressant. Je vous laisse écouter.
J'ai été hospitalisée en psychiatrie une dizaine de fois. La première fois, c'était à l'adolescence et j'ai passé presque 2 ans à aller d'hôpital en hôpital. J'étais sous de fortes doses de médicaments qui faisaient que j'avais en permanence la tête dans le brouillard. J'ai été mise en contention, c'est-à-dire attachée à un lit avec des sangles. J'ai été enfermée en chambre d'isolement. J'ai été injectée de force avec des sédatifs, tout ça de façon répétée. Il faut savoir que la psychiatrie est un système profondément paternaliste où les psychiatres ont toujours raison et les patients, vu leurs symptômes, ne sont pas en état de savoir ce qui est bon pour eux et en fait doivent juste la fermer. Évidemment, ça ne m'a pas du tout aidée à aller mieux. Je suis sortie de là cassée avec un sentiment de honte et un gouffre immense entre moi et le reste du monde. Et puis, il y a quelques années, j'étais étudiante en droits humains et je suis tombée sur un rapport de l'ONG Human Rights Watch où une femme parlait des violations qu'elle avait subies à l'hôpital psychiatrique. Et là, j'ai réalisé, moi aussi. Moi aussi, on a porté atteinte à mes droits. J'ai repensé à ce qu'on m'avait fait et j'ai compris que c'était pas du soin, mais du contrôle et de la discipline. Et au plus je me suis informée sur les droits humains, au plus j'ai réalisé que c'était ma liberté, mon intégrité physique qu'on avait violée, et que c'était mal et que c'était grave. Et en fait, rien que de savoir ça, ça m'a déjà rendu une partie de la dignité que j'avais perdue. À ce moment-là, j'ai décidé de m'engager comme militante. J'ai trouvé du travail dans cette même ONG pour pousser les gouvernements à faire respecter les droits fondamentaux aussi dans les soins de santé mentale. J'ai rejoint le réseau européen des usagers, ex-usagers et survivants de la psychiatrie, par lequel on défend nos propres droits à l'échelle internationale. Et grâce à ça, j'ai pu rencontrer d'autres personnes qui avait eu le même genre d'expérience que moi et ça m'a fait beaucoup de bien de me sentir moins seule. Donc maintenant, au lieu de la honte que je ressentais, j'ai plutôt une sorte de colère, mais une colère saine qui me donne envie de faire changer les choses. Ce combat, ça m'a aussi fait réaliser que l'experte sur moi-même, bah, c'est pas les médecins, c'est moi. Et donc j'ai pu trouver mes propres ressources à l'intérieur de moi pour m'aider. Et grâce à ça, je gère beaucoup mieux qu'avant les moments difficiles. Alors si je pouvais faire passer un message pour les warriors de la psychiatrie, ce serait que vous avez les droits. Vous ne devez rien accepter qui ne vous fait pas du bien. Et croyez en vous, parce que vous savez mieux que quiconque ce qui est bon pour vous. Et surtout, surtout, parlez. Parce que cette violence, elle se nourrit de notre honte et du tabou qui plane autour de la psychiatrie. Et c'est seulement quand on sortira de ce silence que ça va changer.
J'ai les larmes aux yeux, on est sur de la Warriors de niveau olympique. Là.
Ouais, non, vraiment, c'est incroyable ce témoignage. Léa. Et en plus, c'est fou à quel point elle arrive bien à expliquer et à articuler en fait qu'est-ce qui est problématique dans ce qu'elle a vécu, qu'est-ce qui est violent et à quel point elle s'est relevée. Quoi.
Ah ouais, son cheminement, il est.
Parce qu'il y a des gens, ça peut les bousiller pour toute la vie en fait. Hein, et changer complètement leur rapport aux autres, leur rapport au monde, c'est très violent.
C'est incroyable, tu viens pour être aidé et en fait, on te détruit
complètement. Et donc oui, moi j'étais vraiment très touchée aussi par ce témoignage. Et en fait, je pense que c'est important de comprendre pourquoi le système de la prise en charge de la santé mentale fonctionne tel qu'il fonctionne actuellement. Alors il y a aussi beaucoup d'hommes, je pense, qui peuvent subir des abus. Et jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, on pratiquait quand même des électrochocs dans beaucoup de pays. Moi, je connais des gens. Qui ont vécu ça, alors pas en France, mais je veux dire, c'est pas un truc qui existe.
C'est pas un mythe.
Plus. C'est une réalité, quoi. Donc voilà, et en fait, il y a une, je sais pas si c'est le bon terme, mais moi je dis une psychiatrisation des femmes qui existe depuis l'Antiquité, c'est-à-dire qu'on va toujours dire que les femmes sont folles, et vachement exagérées au-dessus, sur ça.
Les hystériques radicales.
Voilà, donc au sujet de l'hystérie, alors j'ai trouvé un super article, je vais vous mettre le lien dans Chic Magazine sur le sexisme dans la psychologie au sens large, on va dire. Et voilà, donc l'hystérie, ça vient donc du grec hystéros, qui signifie utérus. Et donc l'hystérie, c'était considéré déjà par les penseurs antiques, Platon en tête, comme une maladie exclusivement féminine. Il disait « Travaillé par le désir maternel, l'utérus des femmes se déplacerait à l'envi dans le corps de ces dernières, bloquant successivement les voies respiratoires ou celles de la circulation sanguine, causant ainsi crises de démence ou de larmes. Du Moyen-Âge où l'hystérie était l'apanage des sorcières, au XIXe siècle où le médecin anglais Joseph Mortimer Granville imagina le premier vibromasseur dans le but de soigner des femmes hystériques. » Cette névrose est considérée comme une plaie féminine, et aujourd'hui, hystérique, ça reste encore une insulte profondément misogyne qui est adressée quasi exclusivement aux femmes, notamment aux féministes. D'où tes affiches et tes t-shirts, Anaïs.
Hystérique radicale.
Hystérique radicale.
Et d'où aussi, j'imagine, les trucs du genre « mais t'as tes règles ou quoi ?»
Oui, voilà, tout à fait.
J'aime beaucoup l'image de l'utérus qui se balade.
Ouais, mais c'est incroyable. Enfin, tu te dis, mais les mecs...
Là, il est au niveau de mon dos, là, en ce moment, écoute.
Ouais, voilà, c'est ça. Tout est normal. Donc, ça, c'était à l'Antiquité. Donc, on peut se dire, c'était il y a longtemps, machin.
No.
Mais en fait, ces croyances, elles ont continué à se propager et à influencer la façon dont on traite les femmes jusqu'à l'apothéose avec notre cher Freud et sa théorie sexuelle selon laquelle...
Toujours un fils de rien.
Voilà, selon laquelle la femme ne se caractérise que par son manque de phallus.
Oui.
Voilà, donc toute notre existence ne tourne que autour du fait qu'on n'a pas de bite. Et comme elle cherche toute sa vie à combler ce vide, ce creux, à travers la sexualité ou la maternité, l'enfant devenant un substitut du pénis manquant.
Waouh!
Non, mais lui, il a vraiment des soucis.
Je sais pas ce qu'il fumait, mais ça avait l'air pas mal,
Donc voilà, allez voir cet article de Chic Magazine qui est super intéressant. Encore une fois, je vous mets le lien et je voudrais parler du coup des psys safe, on va dire, c'est-à-dire des gens qui sont, des psys qu'on peut aller voir, même si on est une personne racisée, une personne LGBT, etc. Parce qu'en fait, si tu vas voir un psy qui est un homme blanc bourgeois, potentiellement, en fait, il va pas du tout comprendre ton expérience parce que lui-même, il a des biais énormes, il a grandi dans un système et il est pas du tout neutre, en fait. Faut arrêter de croire que les psys sont neutres, c'est totalement faux, ils ont grandi dans un système et à moins qu'ils se soient vraiment déconstruits et qui soient très ouverts sur ces questions-là la plupart du temps. Et ça, c'est pareil, on m'a raconté, mais un nombre d'histoires incalculables, que ce soit des personnes racisées ou lesbiennes ou autres, de psy qui disent des trucs mais extrêmement graves à leurs patients, en fait, et qui peuvent, pareil, les détruire. Hein. Donc, pour ça, je vous conseille le dernier épisode de Kif Taras qui s'appelle « Le coup mental du racisme », dans lequel elles interviewent Rakika, qui est une psychologue, qui reçoit surtout des femmes noires entre 20 et 50 ans et qui sont presque toutes en fait en situation de burn-out liée au racisme sur leur lieu de travail en fait. Donc ça, va expliquer ça à un psy blanc, il va dire « Non mais vous êtes parano, c'est pas du racisme, vous êtes sûr, non mais quand même, non non non. »
Vous prenez ça beaucoup trop à cœur.
Voilà.
Votre utérus est à quel niveau de votre corps actuellement?
Ouais, c'est ça. Et du coup, bon, elle parle d'une liste de psy safe qui circule, donc, dont j'avais déjà entendu parler, donc je vous mettrai le lien de ça aussi. Voilà, donc c'est des psys qui se disent donc inclusives, respectueuses, etc., et qui sont un peu briefées, on va dire, sur toutes les problématiques de minorité, de discrimination. Yes. Donc voilà.
En plus, ça va très loin, ce côté, ce dont on parlait tout à l'heure sur la psychiatrisation des femmes.
Ouais.
Ça explique notamment qu'on ait mis si longtemps à diagnostiquer des maladies comme l'endométriose,
en fait.
Parce que, pareil, la douleur des femmes au moment des règles est considérée comme, en fait, une faille psychologique.
C'est ça.
Et en gros, on te dit, non, en fait, t'as pas si mal que ça. Déjà, on minimise ta douleur. Voilà. Et du coup, c'est en 2019 seulement qu'on commence à parler de cette maladie, alors que ça fait des siècles que des femmes souffrent le martyr quand elles ont leur règles. Donc ça a des conséquences réellement tragiques et il faut que ça bouge vite. Là, on est en 2019, on ne peut plus attendre, en fait.
Et donc, prenez soin de vous, faites attention si vous êtes dans un parcours de soins de santé mentale. Ouais. Faites attention à qui vous vous adressez, entre les mains de qui vous vous mettez, et n'hésitez pas à prendre contact avec des associations comme...
Et à changer de soignant au besoin.
Voilà,
si quelque chose ne va pas, comme elle le disait,
écoutez-vous,
faites-vous confiance. Il n'y a que vous qui êtes experte et expert de vous-même.
Le feeling.
Voilà. Du coup, c'est à moi. Alors, je ne sais pas si vous le saviez, mais moi, ça me semble une information méga importante. Parmi les avortements qui sont pratiqués en France, 85% sont pratiqués sur des personnes qui avaient un moyen de contraception qui n'a pas fonctionné. Et la plupart du temps, il s'agit de la pilule. Donc voilà, ça c'est pour faire taire déjà les gens qui parlent d'avortement de confort. Hein. C'est comme la vasectomie récréative, ça n'existe pas. Et donc, c'est ce qui est arrivé à Gabrielle. Elle fait partie de ces avortements sous contraception. Elle est tombée enceinte alors qu'elle prenait la pilule et donc elle a décidé d'avorter. Et dans la procédure d'avortement, il y a plusieurs rendez-vous obligatoires, dont un avec un médecin pour parler de la future contraception, celle qu'on prendra après l'IVG, sachant que la précédente, du coup, a échoué. Et ce rendez-vous va quasiment se transformer en procès. Et elle nous raconte tout ça ainsi que sa réaction.
Elle m'a demandé si j'étais sûre de mon geste, si je réalisais la gravité de la situation. Elle m'a expliqué que j'avais besoin d'un suivi psychologique suite à l'avortement. Elle m'a dit que c'était aberrant d'avoir attendu aussi longtemps pour demander un avortement, que ça cachait quelque chose, que j'étais inconsciente. Donc déjà, j'étais pas bien. Et ça, j'ai répondu quand même assez calmement par rapport à l'agressivité de sa phrase. Que c'était gentil de me proposer un suivi psychologique et d'essayer de me rassurer. Mais je savais très bien que ce que je faisais, c'était la meilleure chose pour moi. Que si j'avais attendu si tard, entre guillemets, c'est parce que je prenais la pilule, donc j'avais pas du tout réalisé que c'était possible que je tombe enceinte, évidemment. Qu'en plus, le premier mois, j'ai eu un déni de grossesse, c'est-à-dire j'ai eu mes règles alors que j'étais enceinte. Et que de toute façon, quand j'ai appelé l'hôpital, j'ai attendu 2 semaines avant d'avoir une réponse. Donc forcément, on a perdu du temps. C'était pas forcément à ma faute. Et là, elle me répondait plus naturellement, comme si j'étais vraiment teubée. Mais vous savez, mademoiselle, quand on oublie la pilule, souvent c'est la conscience qui parle. Cet enfant, je suis sûre que vous le voulez vraiment. Et là, elle me montre l'échographie que tous les médecins avant ne m'avaient pas du tout montrée. Parce qu'ils ne sont pas censés nous montrer l'image du fœtus. Et elle me dit, et puis monsieur, dans tout ça, il est au courant, il n'est pas avec vous aujourd'hui, comment ça se fait? J'espère que vous avez son aval. J'en ai vu plein des comme vous, cette histoire de déni de grossesse. Je pense que juste que vous ne savez pas du tout comment ça marche. Alors là, j'étais scotchée. J'étais vraiment choquée. Enfin, il y avait plein de trucs qui n'allaient pas dans ce qu'elle venait de me dire, clairement. Et je ne sais pas comment j'ai fait. Bah, surtout aussi parce que je m'étais préparée, que j'avais gardé toutes mes plaquettes de pilules usées, au cas où, et que je m'étais préparée. En fin de compte, ce n'était pas plus mal parce que je lui ai donc posé les plaquettes de pilules sur la table. Elles étaient vides. J'ai dit, voilà madame, voici la pilule que j'ai prise. J'ai gardé toutes les plaquettes parce que justement, je flippais de reprendre la pilule et d'en oublier. Il y a bien marqué aussi sur la notice, là je sors la notice de la boîte, que c'est pas à 100% fiable. Cette pilule, elle était seulement à 80% de taux de protection. Donc malheureusement, je suis dans ces quelques pourcentages qui confirment la règle. Le premier mois, j'ai bien fait un déni de grossesse, à part si ma gynéco et mon sage-femme se trompent. On tient un très bon suivi de mon corps, soyez rassurés. Donc je peux vous dire que j'ai eu une petite entrevue avec mon subconscient, mon corps, monsieur qui est au courant évidemment, et moi-même. Et nous sommes tous d'accord que c'est pas le moment. Maintenant, j'aimerais qu'on arrête de divaguer et de voir te diffamer sur ma conscience.
Parce que moi, j'aimerais parler contraception. C'est apparemment pour ça que je suis là. Donc, voici le prochain moyen de contraception que je souhaite. Et là, je porte fermement un flyer sur la table que j'avais imprimé, moi, avant le rendez-vous. Et c'était sur un stérilet nouvelle génération qui était censé être beaucoup moins douloureux que les autres et qui était non hormonal. Et là, elle me répond pas. Elle regarde le flyer, un peu étonnée quand même. Elle commence à faire une recherche sur son ordinateur. Elle appelle un collègue, puis un autre. Et là, elle me dit, bon, bah écoutez, ce moyen de contraception, je le connais pas. Visiblement, il est très moderne, mais il n'est pas disponible en France, il est disponible qu'en Belgique. Du coup, elle me dit, bon, bah c'est étonnant que vous ayez cette information. Vous avez imprimé tout, c'est bien. Je dis ben merci. J'essaie de faire au mieux pour mon corps et je me suis évidemment renseignée aussi sur la procédure d'avortement. Au cas où elle me souhaitait me prendre de haut pour autre chose, je lui ai dit au fait, je me suis bel et bien fait dépister hein, avant d'arrêter le préservatif au cas où vous voulez m'accuser d'autre chose. J'ai quand même décidé de faire une lettre à l'hôpital. Donc la lettre, je l'avais déposée à l'accueil et je l'avais envoyée par mail et j'avais envoyé en recommandé à l'hôpital directement. Bref, j'avais fait 1 milliard de moyens pour que ça parvienne à quelqu'un et j'ai eu une réponse d'excuse. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est soyez préparées les filles, car plus on vous prend pour une idiote, et plus c'est glorieux de les faire passer pour des idiots.
Bravo Gabrielle.
Oh là là là.
Ah non, mais la préparation qu'elle s'est faite avant d'aller à ce rendez-vous, quoi, c'est complètement
incroyable.
Fou, quoi. Elle était en mode blindée, genre de toute façon ils vont m'accuser de quelque chose.
Mais
quoi.
On dirait qu'elle est au commissariat, elle est en train de se justifier là. Enfin, c'est surréaliste en fait.
Bah alors le parcours d'IVG déjà, il est souvent super compliqué. Déjà de base, c'est difficile de prendre la décision et de se lancer. D'ailleurs, vous connaissez peut-être le projet Paye ton IVG qui publie des témoignages sur le sujet. C'est absolument effarant. En fait, on tombe souvent sur des praticiens et praticiennes qui tentent de nous faire changer d'avis. Alors, c'est quand même merveilleux de savoir qu'il y a des anti-avortements dans les lieux censés le pratiquer et défendre ce droit.
C'est ça.
Bref, c'est
merveilleux.
Dans un monde dans lequel tout va bien. J'en profite donc pour faire mon moment cheesy. J'envoie plein de soutien à toutes les personnes qui ont dû subir ce genre de culpabilisation, à celles qui n'ont pas pu avorter, à celles qui n'ont pas voulu, à celles qui ont été obligées d'avorter. Bref, j'envoie du soutien à toutes les personnes qui un jour sont ou seront confrontées à ces questions. Le contrôle de nos corps et de ce qu'on en fait a malheureusement de beaux jours devant lui, mais nous sommes de plus en plus nombreux à nous battre pour faire valoir nos droits. Alors à nous toutes, un grand bravo.
Ouais, bravo nous.
Et juste, j'ai vu passer un tweet l'autre jour de Martin Winkler. Qui disait à tous les médecins qui refusent de faire de ligaturer les trompes des femmes qui le réclament. En gros, allez vous faire foutre, quoi. Genre, vous vous prenez pour qui ? C'est pas à vous de décider si une femme veut se stériliser, fait. Et ça arrive même à des femmes qui ont genre 3 enfants. Tu te dis, mais attends, je peux éventuellement comprendre qu'une femme de 20 ans, on se dise, bon, peut-être qu'elle va changer d'avis. Mais
Et encore,
tu vois, c'est quand même son choix.
C'est elle de décider.
Mais que
ce
même,
qui me semble, c'est pas complètement irréversible, en plus, comme opération,
je
il
sais
me
pas.
Semble.
Je crois que c'est la vasectomie qui est réversible.
Ah voilà, pardon.
Ouais, c'est pas la ligature.
Si, je pense que c'est irréversible. Mais bon, je veux dire, c'est nos droits, quoi. Je veux dire,
c'est notre corps.
On fait ce qu'on veut, en fait. On n'a pas à nous forcer à rester fertile.
Fécondable.
Fécondable, voilà, c'est ça. Ouais. C'est ça. Il faut qu'on puisse nous mettre un œuf.
Surtout quand on sait qu'il y a eu des stérilisations forcées de certaines populations.
Oui, c'est carrément un outil de génocide. Hein. Donc,
voilà.
On est toujours sur le contrôle des corps des femmes, que ce soit au niveau individuel, politique ou carrément démographique. En fait. Bien, on est de bonne humeur aujourd'hui.
Ouais, youpi.
Bonne ambiance.
C'est pas un épisode très très lol. Marga, tu nous présentes notre prochaine warrior.
On va rire, non, je rigole. Non, on va élargir un tout petit peu le thème de la santé pour parler du soin en général, ce qu'on appelle le travail du care, prendre soin des autres, des vieux, des jeunes, des personnes dépendantes.
Ce talent inné qu'ont les femmes.
Ouais, évidemment. Et c'est pour ça que souvent d'ailleurs, c'est un travail qui n'est pas rémunéré.
Voilà.
Mais là, on va peut-être
ou
en parler
mal,
tout à l'heure.
Voilà.
Mal rémunéré. On va peut-être en parler tout à l'heure, mais là, on va parler de travail rémunéré. Parce que ça peut être, par exemple, les personnes qui sont aides à domicile, donc qui font des domiciles, notamment des personnes âgées, pour les aider dans leur vie quotidienne, donc des métiers très féminin,
ouais.
très peu rémunéré, hyper précaire.
Ouais.
Si vous n'avez pas vu le film de, Ken Loach, Sorry We Missed You, y a quand même un portrait de ce métier qui est bien fait avec, avec Debbie, donc une des personnages principales qui fait ce métier en Angleterre. Et c'est
à voir.
C'est à voir parce que entre les trajets, la pression, la gestion des malades et en même temps aller voir à l'autre bout de la ville en bus, en machin, ça permet de se rendre compte un peu de ce que ça peut être le quotidien de ce métier. Mais il y a aussi, par exemple, les aides médico-psychologiques qui travaillent dans des institutions, principalement des maisons de retraite. Donc, c'est des personnes qui ont un rôle d'éveil, d'encouragement et de soutien de la communication, de l'expression verbale ou non. Alors ça, oui. c'est le ministère de la... c'est l'intitulé okay. du ministère de la Santé. Donc, vous imaginez bien, hein, voilà, prendre soin, donner du bien-être. Et... Donc c'est le métier de Khadija, notre prochaine warrior. Donc elle travaille en Bourgogne pour un grand groupe et elle est déléguée syndicale de l'établissement où elle travaille. Et en plus donc de devoir se battre pour pouvoir faire son travail correctement dans de bonnes conditions, elle subit le sexisme et le racisme. Et en plus elle fait face à une direction qui l'empêche clairement d'exercer son mandat syndical. Je vous propose de l'écouter.
Tu peux te prendre des réflexions comme... À l'époque des attentats où on te dit, parce que t'es d'origine maghrébine, quand est-ce que tu vas dire à tes cousins qu'ils arrêtent de poser des bombes? Ou quand t'as une réflexion par ta propre direction qui te dit, mais vous croyez à la Courneuve quand vous parlez? Tu te dis, comment on peut être bien traitant avec une mentalité pareille? Et puis, ben, au fil du temps, tu te rends compte de ce qui se passe, tu vois des denrées périmées, des personnes âgées qui dorment la tête sur la table, après le repas. Tu te retrouves avec des résidents nus au sol au prétexte que, ben, en même temps, ouais, mais ils sont déments. C'est insupportable de te dire que tu rentres chez toi et que tu laisses des personnes comme ça. Enfin, je sais pas, ça peut être ta mamie, ça peut être ton papy, ta tante, ton oncle. En plus, ils payent plus de 3000 euros par mois. Quand je vois ça, ben, je suis obligée de réagir, je peux pas me taire. Je suis obligée de dénoncer. Je refuse d'aller me coucher en me disant que derrière moi, j'ai laissé des personnes qui peut-être avaient faim. Qui ont été couchés en 2-2 parce que les effectifs ne sont pas assez nombreux. Donc avec deux collègues, on décide de dénoncer. Et là, commence la contre-attaque du groupe avec une première mise à pied pour ma part conservatoire en vue de mon licenciement, qui dans un premier temps a été refusée par le comité d'entreprise, mais également par l'inspection du travail. Donc cela n'a pas plu au groupe et ils ont décidé de contre-attaquer au niveau du ministère. Ministère du Travail qui a également refusé mon licenciement. Donc là, vous vous dites, c'est bon, vous allez pouvoir repartir travailler sereinement. Donc voilà, je me retrouve en accident de travail de janvier à novembre. Puis ensuite, je pars en vacances et là, je découvre à mon retour le passage de l'huissier pour me remettre de nouveau un document me signifiant que je suis attendu le 6 décembre pour un entretien avec sanction pouvant aller jusqu'au licenciement. Dans le même temps, je suis réélue pour 4 ans au niveau du CSE. Je suis élue depuis 2010. Voilà, en soi, je ne considère pas que ce soit une victoire. Je me dis juste que c'est une confirmation que des salariés me font confiance et qu'ils comptent sur moi pour les représenter. Aujourd'hui, si j'ai la force de continuer, honnêtement, c'est grâce à tous les soutiens que j'ai, les familles, mes amis, les familles des résidents aussi, qui me demandent de le tenir et de ne pas lâcher pour les résidents, car j'ai eu le courage de parler. Ce n'est pas tout le monde qui le fait. Après... J'ai pas la prétention de dire que je suis mieux que les autres. Non, je veux juste rentrer chez moi et être au clair dans mon esprit. J'ai une éducation qui fait que je suis là pour bien traiter les personnes et qu'en aucun cas, n'importe quel humain tel qu'il soit ne mérite un tel traitement.
Waouh, méga warrior.
Ah, mais ouais. méga. Là, on a vraiment une édition de warrior surpuissante cet épisode-là.
Ouais. Ben, bravo Khadija pour ton combat. Bon, elle le développe pas hein, dans son témoignage parce qu'elle a voulu tout résumer. Mais ce qu'elle dénonce aussi, c'est un véritable harcèlement de la part de sa direction. Hein, au-delà des menaces de licenciement, il y a aussi tout le reste et ce qui lui a causé quand même pas mal d'ennuis de santé.
L'impunité, eux, ils n'hésitent pas à faire entrer le ministère dans cette histoire pour la faire virer sans aucune peur d'avoir un contrôle et qu'en fait on mette à jour ce qu'elle dénonce. Enfin, l'impunité, elle est totale. Ils ont zéro inquiétude, quoi.
C'est ça.
C'est incroyable.
Donc, si vous voulez la soutenir, Khadija, il y a une pétition en ligne que vous pouvez signer. On mettra le lien en lien de description de l'épisode. Donc, c'est vrai que la maltraitance des personnes âgées, c'est un sujet quand même dont on parle peu, qui est assez tabou et très mal connu. En fait, il n'existe pas de statistiques ni d'études fiables sur le sujet, parce que souvent, les personnes âgées ne le dénoncent pas, tout simplement. Alors, mais l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, estime qu'une personne âgée sur 10 en est victime tous les mois. Wow. Alors, ça concerne toutes les violences. Ça peut être la violence psychologique, la violence physique, la violence économique aussi, et au domicile, en famille ou dans les institutions. Donc c'est un sujet assez important dont on parle beaucoup en ce moment de réforme des retraites, hein, puisque en 2050 en France, les personnes âgées de plus de 65 ans devraient atteindre 29% de la population. Wow. Donc il y a la question qui se pose, hein, quel traitement pour ces personnes âgées, et aussi quelles conditions de travail pour toutes ces personnes qui travaillent à leur côté, qui sont quand même souvent des femmes et qui sont très mal payées, et aussi quelle retraite pour l'avenir pour qu'on puisse payer à nos parents ou pour nous-mêmes des conditions de vie correctes, avec des soins corrects et des personnes correctement payées qui travaillent dans de bonnes conditions et pour pouvoir soigner correctement. Donc il y a quand même, on peut déjà, si on a des proches en maison de retraite, des petites choses qu'on peut faire pour éviter ce genre de situation de maltraitance et pour peut-être signaler au personnel qui parfois, par manque de temps, en fait, tout simplement, on n'a pas le temps de faire les soins. Donc j'ai trouvé ces petits conseils dans un article du Parisien que je vous mettrai en lien aussi. Donc ce qu'il conseille, c'est d'aller visiter des proches le plus souvent possible, d'observer ce qui se passe. Lise, par exemple, un infirmier, une infirmière qui mettrait la cruche d'eau sur une table un peu éloignée du lit de votre parent, ça peut être une source de maltraitance, parce que si la personne ne peut pas se lever pour aller chercher à boire,
elle se déshydrate.
Et ça, c'est pas forcément des choses qui sont faites exprès, c'est juste que voilà, vous connaissez la personne, donc vous pouvez observer et signaler au personnel, peut-être que ce serait mieux de faire comme ci, comme ça. Donc ne pas hésiter à communiquer directement avec les personnels qui, quand même, dans leur grande majorité, comme Khadija, ont à cœur que les personnes aillent bien. Et si besoin, en cas de maltraitance, prendre contact avec des associations qui pourront aider. Et en fait, il y a un numéro de téléphone, c'est le 3977, la plateforme nationale d'écoute contre la maltraitance, qui est gérée par ALMA, donc l'association Allo Maltraitance des personnes âgées ou personnes handicapées. Voilà ce qu'on peut faire, et prenons soin de toutes et de tous, entre nous, les uns les autres. Bisous. Oh.
Ça serait bien, ouais. C'est clair.
Belle utopie aussi, mais non, je suis optimiste. Bien, Elsa, tu vas nous parler de charge mentale à nouveau.
Oui, tout à fait, un sujet qu'on adore. Mmh. Donc, alors je ne sais pas si vous connaissez le compte Twitter Charge Mentale Pédiatrie.
J'adore.
Oui, il est trop bien.
Donc, c'est un compte qui raconte des situations récurrentes dans la pédiatrie. Donc, en fait, c'est des papas qui vont amener des enfants malades chez le médecin ou à l'hôpital. Et en fait, ils se révèlent être totalement désinvestis de la question, en panique totale. Alors, je vais vous donner quelques exemples de tweets pour que vous vous rendiez compte. Vous allez tout de suite comprendre le concept.
On va rigoler.
Alors, premier tweet, donc c'est des médecins qui racontent ce qu'ils voient. Alors, le petit post-it sur le carnet de santé écrit par la mère avec les questions à poser. Et le papa qui dit « attendez, je regarde ce que ma femme m'a écrit ». Voilà. Ensuite, en maison médicale de garde, après avoir fait toute la consultation au téléphone avec la maman, le papa n'étant au courant de rien car, je cite, « il travaille ». Donc on lui demande « et sa date de naissance ?» Le papa dit « le 16 juillet ». La maman dans le haut-parleur « non, c'est le 18 !»
Ah, mais non, ça craint, il ne connaît même pas la date de naissance de son enfant.
Ou à la pharmacie, un papa qui était au téléphone avec sa femme pour savoir quel savon prendre pour le bébé. Il finit par se mettre en FaceTime pour que la femme puisse parler directement avec la pharmacienne.
Mais non,
Parlez-moi d'indépendance et d'autonomie, encore une fois. Parlez-moi de ça.
C'est génial. Et le dernier pour la route. Je viens pour un contrôle. Enfin, je ne sais pas, car d'habitude, c'est sa mère qui l'amène. Donc le médecin demande, elle a des allergies ? Il dit, je ne crois pas. Enfin, comme je vous ai dit, c'est sa mère qui gère ça. Moi, ce n'est pas mon fort.
Ok.
Je sais pas, toi, tu sais si t'as des allergies, non ? Donc, peut-être ton enfant que t'as créé, toi, aussi, en fait, tu devrais le savoir.
Non, quoi. Si c'est ça pas, le concerne pas, c'est boring.
Mais voilà. Tu vis avec cet enfant ou comment ça se passe
ça. Donc, on va écouter Mathilde qui nous raconte un peu pourquoi elle a créé ce compte et comment elle gère ça aussi au quotidien en tant que pédiatre elle-même.
Bonjour les Warriors, je m'appelle Mathilde, je suis médecin et depuis un an et demi maintenant, je tiens le Twitter @chargementale qui recense toutes les anecdotes et les petites histoires de charge mentale qu'on peut voir au quotidien en tant que soignant. C'est un compte Twitter qui a plutôt bien marché, qui a eu pas mal d'échos. Je reçois encore aujourd'hui des témoignages de femmes qui me parlent de leur conjoint, de leur frère, de leur beau-père et de la charge mentale au quotidien, surtout dans le milieu de la santé. Alors forcément, à force de remarquer toutes ces petites histoires de charge mentale, je me suis dit que j'allais essayer de faire un peu changer les choses au quotidien. Alors ce que j'ai remarqué, ce qui marche le mieux en consultation, quand un papa arrive sans le carnet de santé, qu'il n'est pas au courant des traitements, des vaccins, des maladies de son enfant, c'est de lui demander pourquoi, tout simplement. Alors, au début, la réponse est toujours un peu la même. Hein. C'est « Ah, mais ça, c'est sa mère qui gère, c'est pas moi, c'est pas mon fort. » Et donc, je continue. Et je suis « Bah, pourquoi ?» de manière un peu innocente. Et en fait, souvent, quand on va au bout du pourquoi, on voit toujours le papa un peu se... à ouvrir des grands yeux et s'embrouiller en mode « Ah, bah, je sais pas, parce que c'est la mère, c'est comme ça. » Et en fait, au bout d'un moment, ils se rendent compte que leur justification n'est pas vraiment justifiée. Donc, c'est vraiment très intéressant et marrant. Ensuite, souvent, vraiment, ce que j'essaye, c'est de leur expliquer vraiment à eux, pas pour qu'ils racontent à la maman, ou alors quand les deux sont en consultation, de parler au papa aussi, de leur expliquer vraiment les gestes, les lavements de nez, de leur expliquer l'importance du carnet de santé, l'importance de l'avoir sur leur carte vitale aussi. Ça, c'est un gros problème quand le père arrive et qu'il a pas ses enfants sur la carte vitale. Voilà, toutes ces choses qui sont pas anodines, hein, de pas savoir le traitement de son enfant, c'est quand même, ça peut avoir quand même des conséquences graves. Donc, j'espère qu'un papa après l'autre, je vais faire un peu avancer les choses. Alors bien sûr, hein, parfois, quand le père est complètement bloqué et qu'il me dit que c'est pas son problème, qu'il se sent pas concerné, j'insiste pas, hein, le but c'est pas non plus de créer un conflit devant l'enfant en consultation. Mais, j'espère que ça vous aura été utile. Et merci énormément pour le podcast incroyable que vous faites. Et à bientôt.
Oh, c'est chou.
Oui. Merci.
Merci à toi. Mathilde. Et quel taf, quoi.
Ah, mais franchement, quel la taf. Flemme.
Toute la journée faire ça, mais moi, je perds patience et j'en brûle un au bout
incroyable.
De 2 heures.
Mais c'est clair, c'est clair. Mais en tout cas, je suis super contente qu'elle ait témoigné, parce que moi, j'adore ce compte, je le regarde tous les jours. Enfin, je veux dire, je le vois tout le temps dans mon fil Twitter, quoi. Et je suis effarée à chaque fois. Et en même temps, ça me fait rire tellement c'est ridicule comme situation.
Ça,
tu vois, mais enfin.
Enfin, ça va trop loin, quoi.
Ouais.
C'est ton enfant. Si ça ne t'intéresse pas, comment tu peux connaître tous les joueurs de foot et tous les clubs dans lesquels ils sont passés, la géographie des clubs serbes et compagnie, non, et ne pas savoir si ton gosse a une allergie. Merde.
Mais il y a des mecs qui connaissent mieux la date de naissance de Ronaldo que celle de leur enfant, en fait.
C'est une démission d'avance, quoi. Ils cherchent même pas, ils essaient pas. Ah, ça me.
Voilà.
Pas tous, encore une fois, mais
bon, il y a pas que les footeux hein, qui non, ont des problèmes
les rugbymen c'est pareil hein.
ou ceux qui font pas de sport c'est pareil hein.
C'est clair. Bon, en tout cas bravo,
on a fait
pour
plein de clichés.
Voilà.
Bravo pour sa patience et sa pédagogie, parce que franchement
il a super buzzé. En plus, son compte, ça a vraiment fait parler.
Elle a presque 20 000 abonnés.
Ouais. Donc c'est un sacré travail et bon travail d'utilité publique. Bien, on va passer à la rubrique qui fait du bien. Et cette fois, c'est toi, Marga.
Attention, je vais me dévoiler, je suis stressée. Alors, on va parler d'un problème de santé dont on ne parle pas beaucoup et qui pourtant concerne énormément de femmes et qui souvent le vivent dans la solitude et la culpabilité. Je vais parler des fausses couches. Alors, selon les chiffres, ça concernerait à peu près une femme sur 4 qui a une grossesse. C'est un chiffre que j'ai trouvé dans un livre qui s'appelle « Le guide féministe de la grossesse » par Pila Intika et Elisa Rigoulet. Alors, si j'ai acheté ce livre, c'est qu'à une période de ma vie, je suis tombée enceinte, un enfant désiré, et que j'ai fait une fausse couche. Et là, franchement, ça a été une épreuve, hein, vraiment, parce que débuter une grossesse, ce n'est pas rien. Et même si on est prudente, qu'on ne crie pas sur les toits, qu'on va avoir un enfant, au cas où il se passe quelque chose, on se projette toujours. Et ça, c'est à chacune et à chaque couple son histoire. Et surtout que avec cette grossesse, on a l'impression de passer de l'autre côté, quoi. Vous n'avez pas idée à quel point mon petit cœur saigne maintenant quand mes amis me parlent de leurs enfants, alors qu'avant, j'étais limite totalement indifférente. Je trouve ça mignon, mais sans plus. Puis il y a le corps qui change aussi, les hormones, les désagréments de la grossesse. Et puis pour ma part, l'attente, un peu la patience de voir le ventre s'arrondir, tout ça. On le vit dans notre corps. Et puis là, d'un coup, ça s'arrête. Tout ce qu'on avait planifié c'est fini. Alors moi, ça, pour vous raconter comment ça s'est passé, j'ai eu des saignements assez légers pendant 24 heures à peu près, puis plus fort, donc ça a été 48 heures de stress, avec quand même l'intuition que j'allais expulser l'embryon, mais en ayant quand même espoir que non, que c'était pas... voilà, que c'était peut-être autre chose. Alors, pendant ces 48 heures de stress, comment j'ai pris soin de moi, bon, déjà, j'ai de la chance d'avoir un super mec qui était là pour moi et voilà, on a passé la journée ensemble parce que j'avais envie de voir personne, j'étais stressée, j'étais pas bien, donc ça c'était cool. Et j'ai eu la chance, quand j'ai préparé l'émission sur la maternité, de rencontrer Odile Tagawa, donc qui est une sage-femme marseillaise, et voilà, que j'ai pu avoir par texto, qui m'a quand même bien rassurée, donc ça c'est chouette. Donc déjà, un, ne pas aller voir Doctissimo.
Ah, deux, ouais, jamais. Quel que soit le problème, d'ailleurs.
Voilà, ne pas aller sur Internet. Deux, appeler quelqu'un qui sait, en tout cas, ouais, qui aura une opinion, on va dire, médicale et qui saura rassurer et qui sera psychologue. Hein. On va chercher quand même des soignants safe, hein, dont on parlait tout à l'heure. Ça. Et trois, bien s'entourer et ne pas s'obliger, voilà, à faire quoi que ce soit. Voilà. Donc ensuite, il y a eu le moment où j'ai eu tellement mal au milieu de la nuit qu'on est parti à l'hôpital. Donc ça fait un petit entraînement pour éventuellement, si un jour j'accouche. Là, on voit, hein, là c'est voilà, c'est le mec, il est prêt, il est pas prêt. Bon, ça va, il est prêt. Donc voilà, à l'hôpital. Et franchement, je suis allée donc à la conception à Marseille, donc des urgences publiques, de l'hôpital public. Et franchement, je voulais vraiment tirer mon chapeau aux urgences obstétricales parce que les internes qui m'ont accueillie ont vraiment été, enfin top. Enfin, tout ce qu'on dit qu'il faut faire sur expliquer les gestes, demander le consentement.
Ils l'ont fait.
Bah, elles l'ont fait. C'était deux femmes à chaque fois et elles ont été vraiment formidables. Voilà, donc quand on voit un peu ce qui se passe en ce moment sur toute la casse du service public de la santé, moi ça me rend dingue. Quand on voit en plus, je suis arrivée, il pleuvait, il y avait des seaux partout pour, enfin, genre les locaux dans un état vraiment minable. Quand on voit dans quelles conditions le personnel hospitalier travaille et pourtant, voilà, il y a vraiment des gens formidables. Donc voilà, je voulais leur faire un petit cœur, même si je ne sais même pas comment elle s'appelle. Voilà, si jamais vous m'entendez.
Merci
beaucoup. Voilà, et j'ai fait la fausse couche donc pendant cette consultation à l'hôpital. Et après, je suis rentrée chez moi. Et bon, il y a toujours un moment un peu de vide, un peu forcément. Et moi, j'ai choisi d'en parler. Alors moi, ça a été ma façon de vivre les choses, d'en parler à des copines. Et en fait, j'ai été surprise de trouver beaucoup de gens à qui c'était arrivé. Et du coup, de se dire, bah, ah ouais, en fait, je suis vraiment pas toute seule. Enfin, j'avais les statistiques en tête, mais en fait, c'est arrivé à des tas de copines.
C'est super fréquent.
C'est très, très, vraiment, très fréquent. Et pourtant, on n'en parle pas. Donc, en parler, ça m'a aidée. Et puis, d'échanger les expériences, de se rendre compte que finalement, elles avaient vécu quand même plus ou moins la même chose à des échelles un peu différentes. Et aussi, j'avais très peur, en fait, des réactions un peu cheloues ou des gens, tu vois, où je serais pas forcément à l'aise. Et en fait, je dois avoir de la chance parce que je dois être bien entourée, parce que je crois que j'en ai eu deux, des réactions cheloues. Alors, les deux trucs qui m'ont choqué, c'est deux messages. Un, c'était en mode, ah, mais c'est affreux.
Ouais.
Ne dites pas ça. Ah, mais je suis trop triste. Non, mais tu crois pas que moi je suis triste, je m'en fous de ta tristesse, tu vois. Donc évitez de dire ça, mais je vous aime quand même. Hein. Mais voilà, enfin, essayez, voilà, éviter les maladresses, ça peut être cool. Par contre, voilà, dire je suis là et envoyer des cœurs et des bisous, moi ça m'a fait beaucoup de bien. Ce que j'ai fait aussi, c'est que bon, au début, je me disais allez, ça va aller, je continue ma vie, on essaye de se dire bah finalement c'est pas grave, on en fera d'autres, enfin le message qu'on dit. Et en fait, bon bah ça a pas été possible, j'ai dû prendre un arrêt de travail, ce qui n'a pas été forcément facile, mais voilà, prendre le temps pour moi pour me recentrer sur moi et voir les gens que j'avais envie de voir, parce que en fait pendant deux semaines ça a été les montagnes russes, les émotions.
Au niveau hormonal, tu dois être complètement chamboulé.
Ah bah oui, bah du coup c'est une chute brutale de tes hormones de grossesse, donc c'est sympa. Et beaucoup discuter avec les amis, me faire du bien. Alors j'ai fait des trucs que j'avais pas trop fait, genre aller au ciné toute seule. Je suis allée me faire épiler la chatte. J'étais là en mode, alors que moi d'habitude mes poils je m'en fous, genre, ça déborde partout, je m'en fous. Et une copine qui me dit ouais, mais si c'est pour te faire du bien après, je dis ouais, c'est vrai, allez hop, allez, on enlève tout. Éviter les situations stressantes, j'ai mis beaucoup de un peu de au loin un peu ce qui me stressait un peu. Et et surtout, alors ce qui est le plus important pour moi, c'est la communication avec mon compagnon. Et je pense que c'est ce qui est le très important, parce que il y a ce qu'on vit soi, parce que nous on le vit dans notre corps. Mais la personne qui a ce projet d'enfant avec nous, eh ben, lui le, ou elle le vit aussi. C'est important d'en discuter à deux, de parler de chacun ce qu'il ou elle ressent. Enfin, pour nous, ça a été assez important de, d'être soudés tous les deux et de pouvoir... le vivre ensemble, même si c'était pas toujours cool, s'il y a eu des cris et des pleurs, mais voilà, prendre le temps, moi ça m'a mis quand même plusieurs semaines pour vraiment m'en remettre. J'ai encore un peu d'émotion à en reparler aujourd'hui. Donc voilà, soyez indulgente avec vous-même, prenez soin de vous. À toutes les voyeurs qui nous écoutent et qui passent par là ou qui sont passés par là, je vous fais un gros bisou.
Bisous, bisous.
Merci.
Et bravo Marga pour ton témoignage.
Ouais.
Toi aussi, t'es une sacrée warrior.
C'est clair, de ouf.
Ben voilà, du coup, on est tout émus, donc c'est difficile de conclure.
Allez, c'est reparti.
Voilà, alors c'est la fin de cet épisode. On espère que tu as aimé, que ça t'a inspiré, donné du courage. On remercie nos warriors pour leur témoignage. Donc merci à l'ambulancière en carton, merci à Gabriel, Colline, Mathilde, Khadija, Léa, Andrea et Margaïde.
Mm-hmm. Coucou.
Bravo à vous et merci beaucoup d'avoir partagé vos victoires avec nous.
Merci.
Si tu veux creuser le sujet ou témoigner, je t'invite à découvrir les projets Paye ta blouse, Paye ton gynéco, Paye ton psy, Paye ton IVG. Tous ces projets recueillent des témoignages de sexisme, d'homophobie, transphobie, racisme, grossophobie en milieu médical. N'hésite donc pas à témoigner si toi-même tu as envie de partager tes histoires ou à lire d'autres témoignages si tu as besoin de te sentir moins seule. On remercie l'équipe de la Podcast Factory ainsi que l'équipe de Radio BAM à Marseille qui nous reçoit.
Merci, merci.
Tu peux nous écouter sur toutes les plateformes de iTunes à Spotify en passant par Podcast Addict et toute application de podcast. Tu peux aussi, si le cœur t'en dit, nous offrir 5 étoiles sur iTunes, ça fait toujours plaisir. Et nous suivre sur les réseaux sociaux @yespodcast afin de voir, de découvrir les prochains appels à témoignages et de suivre un petit peu nos actus. On se retrouve en janvier, on te dit donc à l'année prochaine et d'ici là, n'oublie pas, ton corps, tes choix, tes droits. Tu prends soin des autres, mais on doit aussi prendre soin de toi. Tu encaisses, tu avances, tu nous fais avancer. Bref, meuf, t'es warrior.
Yeah.